Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
The Crown, les costumes et accessoires seront vendus aux enchères en février. Article du Figaro et AFP. 450 lots seront mis en vente par la maison Bonhams en ligne et lors d'une vente à Londres. Les fans de The Crown pourront acquérir accessoires et décors de la célèbre série de Netflix. Des reproductions de la coiffeuse d'Elisabeth II, de la jaguar verte de la princesse Diana ou encore du portail du palais de Buckingham utilisé pour la série font partie des 450 lots mis en vente. Ils seront exposés gratuitement pour le public par la maison britannique Bonhams dans ses salons de New York, Los Angeles, Paris, puis Londres, avant d'être vendus aux enchères dans la capitale britannique le 7 février. Certaines pièces seront aussi proposées en ligne entre le 30 janvier et le 8 février. Charlie Thomas, l'un des directeurs du groupe Bonhams au Royaume-Uni, a été fasciné par le degré de sophistication des accessoires ou des robes et par des décors extraordinaires comme une copie de la façade du 10 Downing Street qui donne la sensation d'être réellement sur les lieux. Ce sera fascinant de voir qui voudra enchérir pour un tel décor à taille réelle, a-t-il déclaré dans une interview à l'AFP. Si les prix des pièces emblématiques risquent de s'envoler jusqu'à 50 000 livres, soit 57 000 euros, selon lui, pour le carrosse du couronnement, d'autres lots seront proposés à des prix de départ plus accessibles, comme un duo en porcelaine de corgi, les chiens adorés de la reine Elisabeth II, autour de 200 livres, soit 230 euros. Les bénéfices de la vente aux enchères physiques iront aux étudiants de l'École nationale du cinéma et de la télévision, en collaboration avec la maison de production britannique de The Crown Left Bank Pictures. Quelques 11,1 millions de spectateurs ont déjà regardé les premiers épisodes de la sixième et dernière saison de cette série, multiprimée, mais souvent critiquée pour ses arrangements avec la réalité historique. Of course. Les agriculteurs mobilisés toute cette semaine pour faire entendre leur colère et leur ras-le-bol entre blocage et opération escargot, les agriculteurs attendent un discours et des actes concrets depuis le plus haut niveau de l'État. Blocage à Limonest et Givors cet après-midi du 24 janvier, joint par téléphone sur site Pascal Goutenoir, président de la FDSEA Rhône.
Oui, c'est ça, oui. Nous venons d'arriver sur place. Oui. Donc c'est sur le point de mobilisation de Limonest, sur l'assiste au niveau de Limonest, la maison carrée. Comme ça a été annoncé au départ, et idem sur le deuxième site de Givors Lyon Sud, c'est un blocage fixe jusqu'à minima demain midi, quoi. L'appel de mobilisation est jusqu'à jeudi midi. Ça nécessite un peu d'organisation, mais malheureusement, on commence à avoir l'habitude. Là, on prend position du lieu pour rester jusqu'à demain midi sans en continu, quoi. Mmh.
C'est un blocage filtré ou pas? Est-ce que de temps en temps?
Non.
Pas du tout.
Non.
Blocage complet.
Alors déjà, c'était la volonté de faire un blocage complet, d'autant plus des événements tragiques qui sont passés en Ariège hier. Il était hors question de faire des barrages filtrants de notre volonté, et même les services de sécurité en préfecture nous l'ont interdit. Il y a de l'intendance boissons et nourriture, et puis après, c'est de la convivialité. Les gens restent autour, discutent, quoi.
Vous êtes combien à peu près de mobilisés?
Il y a sur le Rhône, ça fait une centaine de tracteurs divisés sur les deux sites, et puis a priori, pour le moment, autour de 100-150 personnes sur Limonest, et j'ai pas encore les retours sur Givors.
Du département, de tout le département.
Oui. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est tout agriculteur confondu. Hein.
Oui, oui.
C'est vraiment toute production agriculteur confondue du Rhône.
Alors, parlons effectivement de ce blocage.
Oui, alors il y a plusieurs volets où on peut attaquer notre mécontentement. Donc le volet principal, c'est que on aimerait bien vivre décemment de notre métier. On voudrait avoir un revenu correct par rapport au genre et au travail passé. Donc ça, c'est déjà une chose. Et notre revenu, on espérait l'avoir par la loi Egalim, mais l'État joue pas son rôle de gendarme par rapport à des industriels ou des transformateurs qui respectent pas la loi. Après, on dénonce une position du gouvernement qui signe des accords commerciaux avec des autres pays au détriment de l'agriculture, les accords avec la Nouvelle-Zélande, si je résume vite fait, on échange des Boeing contre de moutons, ou l'Amérique du Sud avec les accords du Mercosur, on échange de la viande contre, on va dire, de l'économie. Donc soit l'État nous dit, bah, il privilégie les échanges commerciaux au détriment de l'agriculture et on est au courant, soit ils assument leur gros mot, la souveraineté alimentaire, mais ils nous en donnent les moyens. On peut pas avoir d'un côté la souveraineté alimentaire en valorisant les échanges commerciaux comme le gouvernement fait au détriment de l'agriculture. Quand il y a des accords commerciaux, c'est pas un souci, mais quand c'est au détriment de l'agriculture, ça nous pose problème. Et c'est surtout que en échange, il y a des produits qui viennent de l'étranger qui sont produits avec des normes totalement différentes que nous. Quoi. Pas du tout les mêmes exigences de production que le gouvernement nous inflige à l'agriculture française. Quoi. Je mets au défi de trouver soi-disant productions qui viennent de l'étranger qui sont faites avec la même virtuosité française. Quoi. Et ben en fait, les normes environnementales qu'on nous impose, elles ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud. Hein. Ne serait-ce que sans aller plus loin qu'en Europe, hein, quand on voit les normes écologiques qu'on nous impose, qu'on nous ordonne, qu'on nous contrôle, c'est totalement impossible. Quoi.
Parce que ça vous fait un coût supplémentaire, c'est ça?
Ça fait un coût supplémentaire et puis on ne peut pas produire avec les normes qui veulent. Alors, j'irai pas jusqu'à là, mais même si des fois certaines parties de la société nous traitent de pollueurs, alors que nous sommes les premiers protecteurs de l'environnement, on nous demande de protéger la biodiversité, de produire en même temps. Mais il faut choisir. À un moment donné, il faut que l'État choisisse. C'est soit il veut qu'on aille vers une Europe verdissante et au détriment de l'agriculture, soit on nous demande de produire pour la souveraineté alimentaire. C'est totalement contradictoire. Le gouvernement est totalement contradictoire dans ses positions. Quoi.
C'est ça.
On peut pas protéger la nature comme le désirerait le gouvernement en nous ne donnant pas les moyens de produire correctement. Les bio, ils sont dans la même philosophie.
Pareil.
Exactement pareil. Les normes bio françaises et les bio d'Amérique du Sud sont à des années-lumière de l'une de l'autre.
La mobilisation des agriculteurs se poursuit avec des barrages routiers pour faire pression sur le gouvernement. Après la FNSEA et les jeunes agriculteurs, reçus lundi, la coordination rurale, deuxième syndicat agricole, et la confédération paysanne, troisième, sont sortis mardi soir du bureau du Premier ministre, sans appeler à lever les blocages. Le Premier ministre recevait mercredi matin la Confédération paysanne, le troisième syndicat le plus représentatif de la profession. Le 1er janvier, l'Opac du Rhône est devenu de Fleuve Rhône Habitat. Afin de renforcer sa capacité à répondre aux besoins en matière de logement et d'aménagement, l'Opac du Rhône s'est associé avec Loire Habitat pour créer le groupe début janvier. Avec nous Guillaume Rio, directeur général de Fleuve Rhône Habitat.
Il s'agit d'une association entre deux offices publics de l'habitat, deux offices départementaux. L'un qui est établi sur le territoire du Rhône, dans le département évidemment, et l'autre dans la Loire. Donc on a deux offices départementaux présidés par les deux départements, les deux présidents des départements qui se sont accordés l'un et l'autre pour construire une vision commune du territoire et construire un groupe qui a vocation à associer les compétences, associer les expertises, les équipes bien évidemment, de façon à être plus fort, plus solide, plus présent sur l'ensemble des deux territoires. Mais il ne s'agit surtout pas d'une fusion, mais bien d'une association, chacun sur son territoire départemental.
Une concurrence qui lie les deux agences bailleurs sociaux.
Absolument, les offices publics sont financés par le livret A, hein, comme le reste des organismes du logement sociaux sur le territoire français. Il existe toutefois une différence avec des entreprises qui sont des entreprises privées et qui bénéficient assez largement de ce qu'on appelle le 1% logement. Cette enveloppe du 1% permet d'améliorer sensiblement les fonds propres qui peuvent être mis à disposition d'opérations sur l'ensemble du département. Les offices publics ne bénéficient pas de cette manne, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Donc il y a un impératif à se rassembler, à se regrouper, à se structurer, à développer nos expertises de façon à être plus fort sur un marché qui devient très concurrentiel et parfois très difficile.
Sur quel parc locatif désormais s'étend l'organisme de logement social?
Alors, le groupe de Fleuve, qui sera constitué à partir du 1er janvier 2024, sera constitué de deux offices publics départementaux, deux fleuves Rhône Habitat, deux fleuves Loire Habitat, et d'une entreprise sociale pour l'habitat qui sera spécialisée dans la construction de résidences spécialisées. L'ensemble représentera plus de 26 000 logements, avec un chiffre d'affaires à 188 millions d'euros. Mmh. Plus de 550 collaborateurs. Une vraie force de frappe au service des territoires des deux départements.
Un besoin spécifique en logements sociaux. Ces dernières années, la France est très loin du compte en capacité d'offre.
Tout à fait. Le nombre de demandeurs tend à augmenter depuis des années. La situation ne s'arrange pas. Sur le département du Rhône, dit du Nouveau Rhône, c'est-à-dire en dehors de la métropole, la situation n'est pas tellement plus facile que sur la métropole, puisque un certain nombre de décisions sur le territoire métropolitain amènent à ce que des opérateurs dépassent, sortent du territoire métropolitain et viennent sur le département du Rhône, ce qui n'est pas toujours très simple pour nous, les offices publics, par la suite, d'accéder à la ressource foncière, puisque s'il n'y a pas de terrain, c'est de toute façon difficile de construire des opérations de logement pour répondre aux besoins des populations. Ce qui est une contrainte importante, c'est l'accès au foncier et le coût du foncier. Il y a d'une part la raréfaction du foncier, bien sûr. Et donc on a parlé tout à l'heure de la loi ZAN. Donc ça, c'est une première difficulté. Et par ailleurs, quand il y a du foncier, il y a aussi une difficulté d'y accéder par rapport au prix. Puisque depuis 10 ans, la ressource foncière est arrivée à un niveau de prix qui est parfois incompatible avec l'équilibre des opérations. Ce qui amène un certain nombre d'opérateurs, offices publics mais aussi entreprises privées, à travailler avec des promoteurs, puisque eux disposent d'un modèle économique. Ils sont pas soumis aux mêmes réglementations. Ils peuvent vendre au prix du marché, ce qui n'est pas le cas des bailleurs sociaux, qui sont limités dans les prix de vente. Et c'est parfois, un peu trop souvent, par les promoteurs qu'on arrive à recréer du logement social.
L'OPAC du Rhône et Loire Habitat s'associent pour constituer à part égale la société anonyme de coordination SAC au fil des deux fleuves. Ce changement de nom de fleuve Rhône Habitat n'a pas de conséquences directes sur la vie quotidienne des locataires. Les contacts au niveau de l'office et les services qui leur sont proposés restent les mêmes.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.